Il régnait dans la maison un silence anormal. Je voulus aller au renseignement et descendis le grand escalier. Au salon, mon père pleurait. Spectacle impensable et que je n'ai jamais revu. Ma mère le tenait dans ses bras comme un bébé géant. Elle me dit très doucement « Ton papa a perdu sa maman, ta grand-mère est morte. » Je pris un air terrible. « Évidemment, poursuivit-elle, tu ne sais pas ce que ça veut dire, la mort. Tu n'as que 2 ans et demi. » Mort, affirmai-je sur le ton d'une assertion sans réplique avant de tourner les talons. Mort, comme si je ne savais pas. Comme si mes 2 ans et demi m'en éloignaient alors qu'ils m'en rapprochaient. Mort, qui mieux que moi le savait? Le sens de ce mot, je venais à peine de le quitter. Je le connaissais encore mieux que les autres enfants, moi qui l'avais prolongé au-delà des limites humaines. N'avais-je pas vécu 2 années de coma, pour autant que l'on puisse vivre le coma? Qu'avait-il donc pensé que je faisais dans mon berceau pendant si longtemps, sinon mourir ma vie, mourir le temps, mourir la peur, mourir le néant, mourir la torpeur? La mort, j'avais examiné la question de près. La mort, c'était le plafond. Quand on connaît le plafond mieux que soi-même, cela s'appelle la mort. Le plafond est ce qui empêche les yeux de monter et la pensée de s'élever. Qui dit plafond dit caveau. Le plafond est le couvercle du caveau. Quand vient la mort, un couvercle géant se pose sur votre casserole crânienne. Il m'était arrivé une chose peu commune. J'avais vécu ça dans l'autre sens, à un âge où ma mémoire pouvait sinon s'en souvenir, au moins en conserver une vague impression. Quand le métro sort de terre, quand les rideaux noirs s'ouvrent, quand l'asphyxie est finie, quand les seuls yeux nécessaires nous regardent à nouveau, c'est le couvercle de la mort qui se soulève. C'est notre caveau crânien qui devient un cerveau à ciel ouvert. Ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont connu la mort de trop près et en sont revenus, contiennent leur propre ridice. Ils savent qu'il y a en eux quelque chose qui se rappelle trop bien la mort et qu'il vaut mieux ne pas la regarder en face. C'est que la mort, comme un terrier, comme une chambre aux rideaux fermés, comme la solitude, est à la fois horrible et tentante. On sent qu'on pourrait y être bien. Il suffirait qu'on se laisse aller pour rejoindre cette hibernation intérieure. Eurydice est si séduisante qu'on a tendance à oublier pourquoi il faut lui résister. Il le faut, pour cette unique raison que le trajet est le plus souvent un aller simple. Sinon, il ne le faudrait pas. Je m'assis sur l'escalier en pensant à la grand-mère au chocolat blanc. Elle avait contribué à me libérer de la mort, et si peu de temps après, c'était son tour. C'était comme s'il y avait eu un marchandage. Elle avait payé ma vie de la sienne. L'avait-elle su? Au moins, mon souvenir lui conserve-t-il l'existence. Ma grand-mère avait essuyé les plâtres de ma mémoire. Juste retour des choses, elle y est encore bien vivante, précédée de son bâton de chocolat comme d'un sceptre. C'est ma façon de lui rendre ce qu'elle m'a donné. Je ne pleurais pas. Je remontai dans la chambre pour jouer au plus beau jeu du monde, la toupie. J'avais une toupie en plastique qui valait toutes les merveilles de l'univers. Je la faisais tourner et la regardais fixement pendant des heures. Cette rotation perpétuelle me donnait l'air grave. La mort, je savais ce que c'était. Cela ne me suffisait pas à la comprendre. J'avais des tas de questions à poser. Le problème était qu'officiellement, je disposais de 6 mots, dont 0 verbe, 0 conjonction, 0 adverbe. Difficile de composer des interrogations avec ça. Certes, en réalité, dans ma tête, j'avais le vocabulaire nécessaire. Mais comment passer en un coup de 6 à 1000 mots sans révéler mon imposture? Heureusement, il y avait une solution. Nishio-san. Elle ne parlait que japonais, ce qui limitait ses conversations avec ma mère. Je pouvais lui parler en cachette, camouflée derrière sa langue. « Nishio-san, pourquoi on meurt ?»« Tu parles, toi. »« Oui, mais ne le dis à personne, c'est un secret. »« Tes parents seraient heureux s'ils savaient que tu parlais. »« C'est pour leur faire la surprise. »« Pourquoi on meurt ?»« parce que Dieu le veut.
Tu crois vraiment ?
Je ne sais pas. J'ai vu tant de gens mourir. Ma sœur écrasée par le train, mes parents tués par des bombardements pendant la guerre. Je ne sais pas si Dieu a voulu ça.
Alors pourquoi on meurt ?
Tu parles de ta grand-mère ? C'est normal de mourir quand on est vieux.
Pourquoi ?
Quand on a beaucoup vécu, on est fatigué. Mourir pour un vieux, c'est comme aller se coucher, c'est bien.
Et mourir quand on n'est pas vieux ?
Ça, je ne sais pas pourquoi c'est possible.
Tu comprends tout ce que je te raconte ?
Oui.
Alors tu parles japonais avant de parler français ?
Non, c'est la même chose.
Pour moi, il n'y avait pas des langues, mais une langue. Et grande langue, dont on pouvait choisir les variantes japonaises ou françaises au gré de sa fantaisie. Je n'avais encore jamais entendu une langue que je ne comprenais pas.
Si c'est la même chose, comment expliques-tu que je ne parle pas français ?
Je ne sais pas.
Raconte-moi les bombardements.
Tu es sûre que tu veux entendre ça ?
Oui.
Elle se lança dans un récit de cauchemar. En 1945, elle avait 7 ans. Un matin, les bombes avaient commencé à pleuvoir. À Kobe, ce n'était pas la première fois qu'on les entendait, loin s'en fallait. Mais ce matin-là, Nishio-san avait senti que ce serait pour les siens et elle n'avait pas eu tort. Elle était restée allongée sur le tatami, espérant que la mort la trouverait endormie. Soudain, il y avait eu, juste à côté d'elle, une explosion si extraordinaire que la petite s'était d'abord crue déchiquetée en 1000 morceaux. Juste après, étonnée d'avoir survécu, elle avait voulu s'assurer que ses membres étaient toujours reliés à son corps, mais quelque chose l'en empêchait. Elle avait mis un certain temps à comprendre qu'elle était enterrée. Alors elle avait commencé à creuser avec ses mains en espérant qu'elle se dirigeait vers le haut, ce dont elle n'était pas sûre. À un moment, dans la terre, elle avait touché un bras. Elle ne savait pas à qui il était. Elle ne savait même pas si ce bras était toujours accroché à un corps. Sa seule certitude était que ce bras était mort, à défaut de son propriétaire. Elle s'était trompée de cap. Elle s'était arrêtée de creuser pour écouter. « Je dois aller vers le bruit, c'est là qu'il y a la vie. » Elle avait entendu des cris et avait tâché de creuser dans cette direction. Elle avait recommencé son travail de taupe.
« Comment tu respirais ? » demandai-je.
« Je ne sais pas. »
Il y avait moyen. Après tout, il y a des animaux qui vivent là-dessous et qui respirent. L'air venait difficilement, mais il venait. « Tu veux la suite ?» Je la réclamais avec enthousiasme. Finalement, Nishio-san était arrivé à la surface. « C'est là qu'il y a la vie, » lui avait dit son instinct. Il l'avait trompé. C'était là qu'il y avait la mort. Parmi les maisons détruites, il y avait des morceaux d'êtres humains. La petite avait eu le temps de reconnaître la tête de son père avant qu'une énième bombe explose et l'enfouisse très profond sous les décombres. À l'abri de son linceul de terre, elle s'était d'abord demandé si elle n'allait pas rester là. « C'est encore ici que je suis le plus en sécurité et qu'il y a le moins d'horreur à voir. » Peu à peu, elle s'était mise à suffoquer. Elle avait creusé vers le bruit, effarée à l'idée de ce qu'elle allait découvrir cette fois. Elle avait eu tort de s'inquiéter, elle ne put rien voir, car à peine avait-elle émergé qu'elle se retrouvait 4 mètres plus bas. Je ne sais pas combien d'heures ça a duré. Je creusais, et chaque fois que je me retrouvais à la surface, j'étais à nouveau enterrée par une explosion. Je ne savais plus pourquoi je remontais, et je remontais quand même, parce que c'était plus fort que moi. Je savais déjà que mon père était mort et que je n'avais plus de maison. J'ignorais encore le sort de ma mère et de mes frères. Quand la pluie de bombes a cessé, j'étais stupéfaite d'être encore en vie. En déblayant, on est tombé peu à peu sur les cadavres, entiers ou en pièces, de ceux qui manquaient, dont ma mère et mes frères. J'étais jalouse de ma sœur qui, écrasée par le train 2 ans plus tôt, avait échappé à ce spectacle. Nishio-san avait vraiment de belles histoires à raconter. Les corps y finissaient toujours en morceaux. Comme j'accaparais ma gouvernante de plus en plus, mes parents décidèrent d'engager une deuxième japonaise pour les aider. Ils passèrent une annonce au village de Shukugawa. Ils n'eurent pas l'embarras du choix, une seule dame se présenta.
Kashima-san devint donc la deuxième gouvernante. Elle était le contraire de la première. Nishio-san était jeune, douce et gentille. Elle n'était pas jolie et venait d'un milieu pauvre et populaire. Kashima-san avait une cinquantaine d'années et était d'une beauté aussi aristocratique que ses origines. Son magnifique visage nous regardait avec mépris. Elle appartenait à cette vieille noblesse nippone que les Américains avaient abolie en 1945. Elle avait été une princesse pendant près de 30 ans et du jour au lendemain, elle s'était retrouvée sans titre et sans argent. Depuis, elle vivait de besognes ancillaires, comme celles que nous lui avions proposées. Elle rendait tous les Blancs responsables de sa destitution et nous haïssait en bloc. Ses traits d'une finesse parfaite et sa maigreur hautaine inspiraient le respect. Mes parents lui parlaient avec les égards dus à une très grande dame. Elle ne leur parlait pas et travaillait le moins possible. Quand ma mère lui demandait de l'aider pour telle ou telle tâche, Kashima-san soupirait et lui jetait un regard qui signifiait « Pour qui vous prenez-vous ?» La deuxième gouvernante traitait la première comme un chien, non seulement à cause de ses origines modestes, mais aussi parce qu'elle la considérait comme une traîtresse qui pactisait avec l'ennemi. Elle laissait faire tout le travail par Nishio-san, qui avait un malencontreux instinct d'obéissance envers sa suzeraine. Elle l'invectivait à la moindre occasion. « Tu as vu comme tu leur parles ?»«
Je leur parle comme ils me parlent. »«
Tu n'as aucun sens de l'honneur. Ça ne te suffit donc pas qu'ils nous aient humiliés en 1945 ?»«
Ce n'était pas eux. C'est la même chose. Ces gens étaient les alliés des Américains. »«
Pendant la guerre, ils étaient des petits-enfants comme moi. »«
Et alors ? Leurs parents étaient nos ennemis. Les chats ne font pas des chiens. Je les méprise, moi. »«
Tu ne devrais pas dire ça devant la gosse, » dit Nishio-san en me montrant du menton.
« Ce bébé ?»
Elle comprend ce que tu dis.
Tant mieux.
Moi, je l'aime, cette petite. Elle disait vrai. Elle m'aimait autant que ses deux filles. Des jumelles âgées de 10 ans qu'elle n'appelait jamais par leur prénom, puisqu'elle ne les dissociait pas l'une de l'autre. Elle les nommait toujours Futago. Et j'ai longtemps cru que ce mot duel était le prénom d'un seul enfant, les marques du pluriel étant souvent vagues en langue nippone. Un jour, les fillettes vinrent à la maison et Nishio-san les héla de loin. « Futago !» Elles accoururent comme des siamoises, me révélant par le fait même le sens de ce mot. La gémellité doit être au Japon un problème plus grave qu'ailleurs. Je m'aperçus très vite que mon âge me valait un statut spécial. Au pays du soleil levant, de la naissance à l'école maternelle non comprise, on est un dieu. Nishio-san me traitait comme une divinité. Mon frère, ma sœur et les Futago avaient quitté l'âge sacré, on leur parlait d'une façon ordinaire. Moi, j'étais un Okozama, une honorable excellence enfantine, un seigneur enfant. Quand j'arrivais à la cuisine le matin, Nishio-san se prosternait pour être à ma hauteur. Elle ne me refusait rien. Si je manifestais le désir de manger dans son assiette, ce qui était fréquent vu que je préférais sa nourriture à la mienne, elle ne touchait plus à sa pitance. Elle attendait que j'aie fini avant de recommencer à s'alimenter, si j'avais eu la grandeur d'âme de lui laisser quelque chose. À midi, ma mère s'aperçut de ce manège et me gronda sévèrement. Elle enjoignit ensuite à Nishio-san de ne plus accepter ma tyrannie. Peine perdue, dès que maman eut le dos tourné, mes prélèvements reprirent. Et pour cause. L'okonomiyaki, crêpe aux choux, aux crevettes et aux gingembre, et le riz au tsukemono, réfort mariné dans une saumure jaune safran, était autrement alléchant que les carrés de viande aux carottes bouillies. Il y avait 2 repas, celui de la salle à manger et celui de la cuisine. Je chipotais au premier pour garder de la place pour le second. Très vite, je choisis mon camp. Entre des parents qui me traitaient comme les autres et une gouvernante qui me divinisait, il n'y avait pas à hésiter. Je serais japonaise.